que tu dois savoir mieux que moi. Est-ce qu'on a des travaux qui montrent si les biais... parce que quel est le rapport entre l'écart, enfin l'ampleur des biais et le niveau de la production qu'on donne à évaluer? Parce que est-ce que le biais est le même si on a affaire à une production très bonne ou une production très mauvaise ou une production moyenne? Parce que par exemple, sur les, on a le même chose sur l'orientation, où on sait depuis les travaux de Marie Duruc que des élèves qui ont à peu près le même niveau selon leur origine sociale, etc., ne vont pas être orientés pareil, mais ça vaut à niveau moyen. En revanche, les élèves de très bon niveau, il n'y a pratiquement pas de biais, ou de très mauvais niveau, il n'y a pratiquement pas de biais. Est-ce qu'il en est de même dans les études? Je n'ai pas connaissance de variation du niveau du travail qu'on demande à évaluer quand on essaie de mesurer des biais.
Non, mais les travaux relatés, notamment par de l'ANSER à cette époque-là, ils pâtissent en quelque sorte du moment où ils ont été faits. C'est-à-dire que l'arsenal statistique n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc on ne faisait pas du multiniveau comme on le fait aujourd'hui, par exemple. Alors, on commence seulement à refaire des choses de façon très systématique expérimentalement, comme je l'ai montré pour les maths. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'autres situations expérimentales, parce que malheureusement, dans le monde où nous sommes, l'expérimentation en éducation, c'est encore assez mal vu. Donc c'est quelque chose qui ne va pas de soi, de dire on va expérimenter, on va mener ça, on va piéger des enseignants. Parce que c'est ce qu'on a fait, là. On leur donne des copies, et puis ce n'est pas les vraies personnes qui ont fait ces copies-là. Donc ça veut dire qu'éthiquement, moi je l'assume, mais il faut l'assumer, de se dire, ok, on a le droit de faire ce genre de choses. Et donc j'ai le droit aussi un jour d'être piégé. C'est la caméra cachée pour tout le monde, quoi. Donc on est assez pauvres, malheureusement, et la façon dont étaient conçues les épreuves à l'époque, dans moi ce que je connais des travaux de sismologie, on n'a pas vraiment cette possibilité d'aller finement dans le détail, et on n'a plus forcément les copies. Ce serait amusant de les retrouver, si on pouvait retrouver un certain nombre de choses, mais oui, non, je peux. Non. Donc il y a du boulot. Et c'est en plus des choses assez chouettes, quand on assume la situation, à faire dans des travaux de mémoire, de master, des choses comme ça. Très souvent, on se lance dans des trucs pharaoniques. Or ici, le travail que je vous ai présenté en maths, pour la première partie, c'est réalisé dans le cadre d'un travail de master d'une étudiante de l'Université de Liège, en l'occurrence, qui a fait cela.
Je voulais vous poser une autre question. J'ai été surpris que vous preniez comme biais la question de l'immigration, c'est-à-dire de l'origine des familles, et pas du tout de présentation de l'origine sociale. Je vois pas bien l'intérêt, enfin je pense que c'est le PISA qui l'organise comme ça, je vois pas bien l'intérêt de savoir l'origine des parents, s'ils sont nés en France, etc., alors qu'on sait très bien que ça a beaucoup moins d'influence que leur niveau social.
Oui, mais ce qu'on voulait faire donc, dans cet ensemble de trois... Donc l'article dont j'ai extrait ces choses qui est paru en 2004, ce qu'on voulait faire, c'était répondre à des choses qu'on entendait régulièrement et qui étaient de dire l'immigration, c'est un problème. On dit, mais non, c'est pas... Alors vous pouvez le traiter à niveau socio-économique égal, mais c'est aussi... Ça présente d'autres difficultés. C'est quoi à niveau socio-économique égal, sachant qu'il y a et la langue, et les pratiques culturelles, et les possessions de biens, etc. Et nous, on l'a pris un peu dans l'autre sens. On a dit, ça n'a pas de sens de poser le problème de cette manière-là, puisque les structures même de ceux qui ne sont pas nés en France ou en Belgique, etc., ne sont pas les mêmes, et que la réponse ne sera pas la même. Si vous voulez organiser la fuite de cerveau, eh bien, ça marche bien. Ah ça marche très bien. On ne doit pas trop se poser de questions. On doit se poser d'autres questions morales. Mais par rapport aux élèves, ils accrochent bien. Si vous sélectionnez les parents qui parlent le français quand ils arrivent et qui ont fait des études universitaires, c'est pas trop un problème. C'était une autre façon de prendre le problème, si vous l'avez un peu pris par la Harvard. Mais vous avez raison sur le fond. Il y a d'autres travaux, et de nombreux travaux sur le sujet. Plutôt de nos collègues bruxellois. À niveau socio-économique égal, on a même des choses qui sont parfois... Alors ça dépend jusqu'où vous allez dans l'analyse. Ça dépend aussi des origines et depuis combien de temps vous êtes là et de quel espoir vous fondez dans l'éducation. Et toutes les populations qui ont migré vers la Belgique ou vers la France n'ont pas le même espoir dans l'éducation, n'ont pas le même accès, ne sont pas eux-mêmes arrivés avec le même niveau de qualification. C'est pas du tout pareil quand on a des Africains francophones qui ont immigré en ayant fait des études, ou bien quand on a des populations qui viennent d'Afrique du Nord en ne sachant pas lire et en étant venus pour travailler. C'est des choses qui sont très très différentes. Et vous, si vous amalgamez tout, les réfugiés politiques, c'est un non-sens. ça dépend ce que vous voulez faire, évidemment. Si vous voulez dire quelque chose et vous savez ce que vous voulez dire avant, ça peut avoir du sens. Mais si vous voulez vous dire, il y a un problème et on va essayer de résoudre ce problème, mais c'est pas la faute d'eux, ça n'a pas beaucoup de sens.
Juste sur cette question, il y a eu une intervention le 3 octobre ici de Françoise Lorsery qui analyse cette question sur la France. Et donc, on a publié un texte qu'elle a écrit là-dessus sur le site du Centre Alain Savary, donc dans les comptes rendus de la journée du 3 octobre sur la discrimination liée à l'origine. Et je pense qu'elle met vraiment au clair les choses par rapport à ça. Une autre référence aussi que vous connaissez peut-être, il y a eu un livre qui est sorti assez récemment sur l'évaluation, donc toutes les questions qu'on a traitées ce matin, qui s'appelle l'évaluation une menace, et qui parle bien de tous les différents effets liés au biais autour de l'évaluation.
Juste sur cette question de la discrimination sur les résultats et les évaluations, moi j'ai fait une étude en 2010, publiée cette année, justement sur les élèves de SECPA et les trajectoires scolaires suivies par les élèves de SECPA. Et donc au niveau des résultats sur 709 élèves questionnés, il s'avère que c'est le lieu d'origine et le lieu de naissance des parents, donc en particulier le père et la mère, qui est corrélé donc à la trajectoire scolaire, avant même le dispositif d'orientation. Et à côté de ça, on trouve que les familles, justement d'origine étrangère, appartiennent à 92%, je crois, de tête. Les mères sont de CSP défavorisés. Et autour de 80% pour les pères. Donc en fait, on a un cumul de données et de constats. C'est-à-dire que les familles démunies sont la plupart du temps aussi en lacune langagière, etc. N'arrivent pas forcément à aider leurs enfants sur les devoirs, dont on parlait hier, etc. Et c'est le cumul de tout ça. Et aussi le lieu de scolarisation, les effets établissements dont on parlait. J'ai réussi à trouver sur les 52 collèges testés, dispositifs d'orientation, 5 dispositifs d'orientation différents. Et vraiment très différents. C'est-à-dire qu'on va avoir des élèves qui vont être éventuellement orientés sur des sections d'enseignement général professionnel adapté, qui ne le seront pas sur d'autres établissements. Ah bah tiens, il y a une... Merci Patrick. C'est, il a tous la main. Donc du coup, on a... quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que sur une étude qui est globale avec un nombre suffisant d'élèves statistiquement parlant, on retrouve ce qui est montré par Durubella ou d'autres sur l'inéquité en fait, hein, à l'orientation, les évaluations, etc. Et la vraie question effectivement de l'évaluation, pour moi, elle est là-dedans. C'est-à-dire que c'est au moment de l'évaluation, ce que disait M. Rochette ce matin aussi, sur la manière dont les enseignants pratiquent en classe, hein, pratiquent langagière et autres, que se questionne en fait le parcours des élèves et la trajectoire suivie par ailleurs.
J'aurais aussi pu vous parler de l'enseignement spécialisé chez nous, et ça nous turlupine vraiment comme psychologue. Parce que vous avez l'orientation qui se fait en classe, par décision de conseil de classe, et puis vous avez le placement dans l'enseignement spécialisé qui chez nous se fait après avoir classé les élèves dans un des 8 types de l'enseignement spécialisé. Et ça, c'est le boulot des psychologues. Et ce qu'on va remarquer, malheureusement, c'est que pour les types qui sont le plus matière à appréciation, c'est-à-dire troubles du comportement et problèmes de retard léger, les deux sujets qui sont les plus problématiques, eh bien c'est là qu'on va en effet retrouver le plus d'enfants d'origine étrangère dans ces classes-là. Alors que pour les enfants souffrant de problèmes physiques, hein, de d'IMC, de choses tout à fait claires qu'on peut diagnostiquer, on ne va pas trouver ces différences de cette manière-là. Donc ça interroge vraiment notre profession. Et de se dire, OK, comment est-ce qu'on a réussi à faire cette distinction-là? Pourquoi est-ce que certains enfants seraient plus problématiques d'un point de vue comportemental parce qu'ils seraient d'une autre origine que d'une origine locale? Qu'est-ce qui fait ça? Et là, on n'est pas très fiers de ce point-là, et il reste encore du boulot sur ce sujet, mais c'est massif.
Je pense que pour poser cette question, on souffre d'une difficulté à penser ce qu'on met dans origine. Et je pense que on a très souvent tendance, à notre insu, à traiter dans origine ce qu'on pense être des caractéristiques primordiales des individus. On a le même raisonnement pour origine sociale. Quand on dit classe sociale, on pense que finalement les individus arrivent dans l'école chargés de certaines choses. Et du coup, dès lors qu'on est sur l'origine ethnique ou raciale, enfin, ou ce qu'on pense comme étant l'origine ethnique ou raciale, ou la catégorie ethnico-raciale, on est en difficulté parce qu'on est pris dans cette difficulté ou ce tabou qu'il y a autour de penser la race, hein, et les rapports de race, les rapports de racialisation. Et du coup, on se voit bien qu'on est pris un peu dans une problématique assez compliquée. Hein. C'est soit il faut effectivement prendre acte que les personnes, selon l'origine ou selon la catégorie ethnico-raciale, n'ont pas de différence fondamentale. Ça, ok, dont acte. Ça ne veut pas dire que dans les rapports scolaires, ça n'intervient pas. Et je reprenais l'exemple que donnait Jean-Yves Rochex tout à l'heure, en comparant Charlotte et Awa, je trouve assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a un mécanisme implicite, pour le coup, par lequel la question de l'immigration, ou la question ethnique, en fait, hein, plutôt de l'immigration, puisqu'on n'en sait rien dans l'exemple donné, la question ethnique ressurgit, mais j'en reviens un petit peu en contrebande, c'est-à-dire on travaille la question sous classe sociale, et arrive la question de l'immigration. Et moi, je serais très intéressé dans le travail de Jean-Yves Rochex de voir comment s'articule finalement la question des classes sociales et la question que l'on attribuerait à l'immigration ou à un statut ethnique. Voilà. Mais cela suppose effectivement d'accepter de travailler avec ces catégories dont on voit bien, et Marc de Meuse le disait bien, qui sont extrêmement problématiques. Je voudrais simplement pointer un élément, mais on aura l'occasion d'y revenir demain, dans mon intervention demain, c'est qu'on ne peut pas oublier que l'institution scolaire, elle s'est construite comme une institution avec une visée de civilisation nationale, de nationalisation des élèves. Comment cela aurait pu disparaître, pourrait être occulté, finalement, dans la conception du projet institutionnel, hein, je pourrais dire, et du coup ne pas avoir d'effet sur la façon de considérer les élèves selon leur origine. Voilà. Là, il me semble qu'il y a quand même un peu un mystère si on veut ne pas traiter cette question.
Juste, c'est deux choses différentes, parce que je crois qu'il y a ce qu'on peut regarder en fonction, moi j'ai pas trop envie de parler d'origine mais de parcours ou d'histoire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et je vais y revenir. Et puis, il y a ce qu'on peut regarder en termes de d'ethnicisation, de construction sociale, de catégorie, de mise en ordre du monde que manient les acteurs sociaux, y compris d'ailleurs les élèves à leur propre égard. Quoi. Parce que Black Bomber, c'est pas de l'origine. Hein, c'est pas, voilà. Alors, donc, en termes d'origine, moi, ce qui me soucie, c'est moins l'origine. Et c'est des vraies questions pour la construction des catégories statistiques, je trouve. Parce qu'on a souvent on a des constructions de catégories statistiques qui ont parfois tendance à épouser des catégories naturelles ou supposées naturelles. Alors garçon, fille, lieu de naissance, etc. Or, si on s'intéresse quand même aux histoires migratoires ou au rapport à l'école on trouve que comment essayer de catégoriser ce qui pourrait donner du contenu à l'idée d'origine ou d'histoire, etc. Et assez rarement, de mon point de vue, c'est des choses qui relèvent des origines. Pour moi, c'est, par exemple, on a des choses qui relèvent du projet migratoire et du projet familial sur l'école, qui peut relever des pratiques langagières, mais toutes choses qui ne sont pas assignables à une origine. Et par exemple, alors, qu'on peut voir se configurer, c'est-à-dire les variables qu'on peut essayer de saisir ou les facteurs sont pas telle ou telle personne vient de tel ou tel pays. Je prends un exemple que moi j'avais travaillé sur les questions d'immigration il y a quelques années, où on observait que les garçons à milieu social équivalent, les garçons issus des immigrations maghrébines étaient, du point de vue des parcours scolaires dans l'enseignement secondaire, je ne parle pas des apprentissages, en plutôt meilleure situation, si on considère que plus on va loin, mieux c'est, que les garçons de même origine sociale issus des immigrations portugaises. Alors ça a changé, ça n'existe plus. Et évidemment, on ne peut pas rendre compte de ça sans prendre en compte le rapport, si on veut expliquer un fait statistique, enfin interpréter un fait statistique, sans prendre en compte le rapport des familles de l'immigration maghrébine et de l'immigration portugaise à l'immigration, la place de l'école dans cela, le rapport au pays, au retour éventuellement du projet, les transferts d'argent, exemple, les Portugais étaient à l'époque la catégorie de l'immigration qui opérait le plus de transferts d'argent au pays d'origine, avec le stéréotype de la construction de la maison. Donc toute une série de choses qui ne renvoient pas au fait d'être portugais, qui renvoient à comment se conjugue, s'agence des choses du type pratique langagière, projet migratoire, projet de l'école sur les enfants, etc. Zaya Zeroulou avait fait la même chose sur des familles réussissantes ou des familles moins réussissantes dans l'immigration algérienne, qui renvoie à des facteurs et à des agencements de facteurs. Et je crois qu'on pourrait penser l'origine ou le milieu social migratoire comme agencement de facteurs. Et ce qui dépendrait de l'idée que... de la tentation culturaliste quand même très forte, hein, y compris chez des gens de bonne facture. Je pensais à comment il s'appelle la polémique sur les... Lagrange, voilà, merci. Voilà. Et alors, par ailleurs, il y a l'autre chose sur l'ethnicisation, alors, qui ne sont pas des catégories préalables, qui sont des constructions sociales, où on va, et on peut voir, on pourrait regarder... En fait, on l'a un peu regardé, mais on n'a pas vu de choses très probantes, mais aussi parce que nos échelons sont peu prêts. Est-ce que, comment Awa est construite comme élève dans la classe? Ou comment Charlotte, est-ce qu'elles sont construites comme filles, comme bonnes élèves ou mauvaises élèves, comme filles de milieu populaire, comme filles de l'immigration africaine? Comment ça agit? Mais là, on n'est pas dans des origines, on est une construction, y compris comment les élèves eux-mêmes se construisent. Et en milieu populaire, on a l'impression que la construction ethnicisée des élèves par eux-mêmes est plus masculine que féminine. Ça reste à regarder, hein, mais dans le détail, je ne sais pas si on a des travaux là-dessus, mais moi, j'en ferai assez facilement l'hypothèse. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes choses entre ce qui relève de ce qui va s'importer d'un parcours, d'une histoire de construction, de disposition, de rapport à dans l'ici et maintenant scolaire, et comment l'ici, et d'une part, et comment... Et là où se mêlent, hein, des choses qui relèvent de facteurs sociaux, de facteurs, je ne sais pas si on peut les appeler culturels, ethniques. Moi, j'ai du mal avec ethnique, mais toujours. Et qui y compris, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en France, on raisonne beaucoup sur milieux sociaux. Dans les pays anglo-saxons, c'est minorité ethnique, minorité linguistique. C'est très, très... Au Québec, par exemple, la question, c'est quand même ce que disait Marc, pardon, sur le fait que l'immigration, on raisonne beaucoup sur le destin scolaire des enfants d'immigrés au Québec ou au Canada, sans très rarement en mettant en rapport avec l'origine sociale ou avec les niveaux sociaux, parce que c'est une question qui est peu thématisée comme objet de recherche et de débat politique. En France, elle est massive.
Mais deux choses peut-être. Peut-être que la diffusion de nos travaux est aussi un vrai problème. Je pense que très souvent, on va devoir aller de plus en plus vite dans la communication et on va simplifier. Donc on oublie très souvent, quand on parle des faits, on ne parle pas de l'ampleur de l'effet. Il peut être extrêmement faible, mais significatif d'un point de vue statistique. Ou il peut être très important. Hein, et de la même manière, il peut être ou non significatif d'un point de vue statistique par rapport au modèle qu'on a utilisé. Et tout ça, en général, passe à la trappe parce qu'il faut simplifier et qu'il y a peu de culture statistique. Donc ça, moi, je plaide toujours dans la formation pour qu'il y ait une bonne culture statistique. Sinon, on dit n'importe quoi, ou alors il ne faut pas en faire. Mais on est tenté de communiquer de cette manière-là, hein, de dire oui, il y a un effet ou pas. Et on ne dit pas que c'est 1%, 1 pour 1 point ou 2 points sur PISA. Donc quand c'est 50 points à PISA, c'est important parce que ça veut dire que c'est des écarts qu'on va noter comme différents entre pays. Mais si c'est 3 points, ça n'a pas beaucoup de sens, etc. Donc ça, c'est vraiment le point important. Puis alors, il y a une autre méthode que nous, on utilise pour le financement des ZEP, mais ça ne s'appelle pas comme ça chez nous, ce qu'on appelle l'encadrement différencié, c'est qu'on a fabriqué l'indice qui nous sert à rebours, c'est-à-dire qu'on a fabriqué un indice qui fonctionne en termes d'explication de différence. Et cet indice, il part des quartiers habités par les élèves, au sens découpage territorial, et de 11 variables qui caractérisent ces quartiers. Et ça, ce sont les variables que nous, on appelle socio-économiques. Alors, elles reposent sur la structure des diplômes dans le quartier, la structure des revenus, des aides sociales qui sont données aux habitants du quartier, etc., compte tenu de la population du quartier, de 0 à 20 ans, etc. Donc, c'est un système un peu complexe qui rend à peu près impossible la définition de ce que c'est. On appelle ça l'indice socio-économique, mais... Il est devenu impossible de dire ce que c'est, mais ça marche bien. Et donc on l'a fait parce qu'on en avait besoin pour essayer de voir comment on allait mettre nos œufs dans les écoles et les financer différemment, parce que les gens peuvent choisir leur école et qu'on ne peut pas dire il y a des quartiers difficiles ou des quartiers faciles, les élèves bougent. Et donc les élèves dans leur poche, en quelque sorte, ont cet indice à l'insu de leur plein gré, l'amènent dans l'école qui ne le connaît pas, et tout ça nous permet de faire des calculs. Le travers, c'est que maintenant les écoles commencent à s'intéresser, qu'on vient d'avoir une géolocalisation de ce genre de choses qui ne nous fait pas beaucoup plaisir, mais ça existe. Et donc on a pris le problème dans l'autre sens, de façon très pragmatique même.
Juste sur cette question, j'avais posé quand même la question à Marceline Lapara quand elle était venue ici au colloque il y a un an et demi sur ces processus de différenciation en classe de maternelle où elle expliquait donc que l'enseignant n'interagissait pas de la même manière avec les élèves en fonction que l'enseignant considère qu'il est en difficulté ou qu'il n'est pas en difficulté. Et ce qu'elle m'avait répondu, c'est que l'enseignant avait classé des élèves comme en difficulté ou pas en difficulté, pas forcément en fonction de leur niveau ou leur capacité réelle, mais en fonction de préjugés qui étaient pour elle d'ordre ethnique ou d'ordre, un enfant d'une famille monoparentale, ou que c'est une fille ou un garçon, et que ces préjugés-là qu'on a sur les différentes catégories influaient aussi sur ces manières d'agir qu'on a en classe.
Ça pose la question de pourquoi est-ce qu'on fait ces fiches en demandant la profession du père et de la mère si on n'a pas de raison de le faire. Est-ce que comme enseignant, quand on fait cela, on a un modèle qui nous aiderait à mieux faire? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de modèle qui aide mieux. Et donc, on peut se demander au nom de quoi on fait ce genre de choses. Est-ce que ça va nous aider? Est-ce que ça va nous aider à mieux interagir avec l'élève? Est-ce que ça va mieux? Ou est-ce qu'au contraire, on risque de tomber dans une pente glissante et savonneuse? Ce qu'il faut, à mon avis, éviter, c'est des sujets qui seraient très périlleux avec certains élèves. Mais c'est pas en leur demandant si leur père est mort ou leur mère est morte que ça va aider les élèves à s'intégrer le premier jour. Il y a moyen de connaître cette information autrement pour éviter les impairs. Donc je pense qu'on a quand même des mécanismes un peu curieux et qui ne vont pas nous aider, au contraire, donc qu'il faudrait peut-être abandonner.
Moi, je dis toujours... Il y a quelqu'un qui voulait me parler là-bas, mais... Moi, je dis toujours que dans le renversement de posture qui permet peut-être de gagner en efficacité, il y a la question de... Est-ce qu'on s'intéresse à la nature des difficultés ou à l'origine des difficultés? Et il me semble que, du coup, ça peut être une perspective un peu rassembleuse entre nous. C'est-à-dire que c'est quand, en tant que professionnel des apprentissages et des difficultés d'apprentissage, on change de point de vue et qu'on se met à dire « Ok, quelle difficulté il, elle, a à faire ce qu'il y a à faire ou à apprendre ce qu'il y a à apprendre ?» qu'on gagne de la possibilité d'action versus « Quelle est l'origine de sa difficulté ?» sous-entendu, s'il est noir, pauvre ou dyslexique, ça sera plus compliqué. Et Sylvie Seb, elle indique toujours aussi que c'est à partir de ce renversement qu'on va considérer l'environnement comme potentiellement aidant pour agir, l'environnement école comprise, ou au contraire l'inverse. Juste avant qu'on aille manger, je voulais juste vous remontrer deux stats, mais parce qu'effectivement l'intérêt des stats, c'est aussi comment on les fait travailler. Issue de PISA, c'est-à-dire que ce qui est important dans les résultats de PISA, c'est peut-être moins à quel endroit se situe la France, et Marc l'a bien dit tout à l'heure, que on constate que l'écart s'accroît entre les élèves les plus en difficulté et les élèves les plus en réussite. C'est-à-dire que dans l'évolution de nos résultats, on voit que les meilleurs élèves, ceux qui sont au niveau 5 en compréhension de lecture, par exemple, ils n'ont pas d'aggravation de leurs résultats. Ce qui est problématique, c'est ceux qui sont tout en bas. Toujours dans la même idée, si on compare 2000-2008, je fais juste que reprendre des choses qu'a dit Marc, mais issue de PISA 2008, on voit bien là l'augmentation du nombre de filles et de garçons en compréhension de lecture. C'est-à-dire que, en gros, ça n'empire pas plus pour les garçons, mais ça augmente en pourcentage. Et comme ça augmente en pourcentage identique, ça devient de plus en plus problématique. Encore une fois, c'est en t'écoutant tout à l'heure que j'ai pensé à ça. La question des filières. Quand PISA prend à 15 ans les résultats, mais à 15 ans, où est-ce qu'ils sont? Dans quelle filière? Eh bien, on voit qu'à 15 ans, Donc en rouge, les gamins qui sont en niveau 1 en compréhension de l'écrit, et ici en niveau 5, hein, plus ça va par là, plus c'est bon. Et on voit bien que si on prend les élèves qui sont en seconde générale et technologique à 15 ans, c'est-à-dire ceux qui sont à l'heure, il n'y a pas de problème massif de compréhension de l'écrit. Par contre, ceux qui sont en seconde pro, c'est un tiers des gamins. Et donc, du coup, l'impact que ça va avoir, on reprend la discussion d'hier avec les collègues du lycée professionnel, l'impact que ça va avoir sur le travail des enseignants, que de dire qu'est-ce que je fais avec des gamins qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent à 30% et qu'est-ce que j'installe comme situation d'apprentissage explicite sur ça. Et puis, évidemment, si je regarde les gamins qui ont redoublé un an, qui sont en troisième, là, on est à 40%, et les gamins qui ont redoublé deux fois, on est à 60%. Et il me semble que ce genre de résultats montre que, du coup, quand on fait parler les chiffres, j'allais dire, avec une intention, il y a toujours une intention, quoi. Il n'y a pas d'évidence de la statistique.